bonsoir. Vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des Vagues, l'émission consacrée à la cause animale portée par l'association EduPop Animaliste qui organise chaque année le prix Maya, prix littéraire animaliste qui met en avant les ouvrages de fiction faisant avancer la cause animale. Et puis c'est aussi l'association qui organise la Vegan Place de Tours. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter les podcasts des tables rondes enregistrées en juin lors de la dernière Vegan Place. Alors c'est sur le site de la radio, radiocampustour.com, sur la page de l'émission. Alors dans cette émission du mois d'octobre 2025, la première de la saison, nous avons le plaisir de recevoir Marcel Barelli, un auteur, illustrateur et réalisateur de films d'animation qui met au cœur de son travail des animaux. Il vit et travaille à Genève, et moi personnellement j'ai découvert son travail avec deux beaux livres, deux bestiaires parus aux éditions 41, un bestiaire désenchanté et un bestiaire de la sixième extinction, qui mêlent tous les deux illustrations et textes, et qui sont deux livres dont nous pourrions conseiller la lecture à des proches pour les amener à s'éveiller sur la question de notre relation parfois problématique aux animaux. Marcel Barelli a aussi une actualité importante en ce moment du côté de l'animation car il est le réalisateur d'un long métrage sorti au mois de septembre dans les cinémas français. Le film s'appelle Marie Anning. Alors nous consacrerons la deuxième partie de l'émission comme l'année dernière à des chroniques enregistrées par Caroline Brasseau pour son site Le Temps d'une chronique et pour le site Parole d'animaux. La sélection 2026 du prix Maya a été dévoilée récemment et Caroline s'est lancée le défi, comme l'année dernière, de réaliser des chroniques pour l'ensemble de la sélection que nous diffuserons au fur et à mesure dans l'émission. Aujourd'hui, vous pourrez écouter deux chroniques, une consacrée à Louve en juillet de Gabriel Filtoshiba, livre qui est sélectionné dans la catégorie roman-récit, l'autre à l'ouvrage jeunesse Le Monde Sauvage, consacré au renard roux. Alors c'est parti pour ce 47e numéro d'ABC des Vagues. Marcel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour commencer l'entretien, est-ce que tu peux peut-être évoquer ce qui t'a conduit à t'intéresser aux animaux et à la question de la relation que les humains entretiennent avec eux? Et pourquoi tu en as fait une thématique centrale dans ton travail artistique?
C'est une bonne question qu'on m'a souvent posée et à laquelle j'ai toujours de la peine à répondre parce que j'y suis un peu arrivé un peu comme ça, un peu par... sans faire exprès, on va dire, dans le sens, ça s'est un peu imposé à moi. Alors, certains amis me disent, ah, mais c'est parce que tu viens d'un lieu rural, parce que toute ta famille est chasseur, parce que tu viens d'un petit village dans les montagnes, et du coup, tu as forcément vécu beaucoup près des animaux, tu avais plein d'animaux domestiques à la maison, ce qui est le cas. Non, je crois pas du tout. Alors, c'est pas du tout ça. Je crois que c'est venu par la lecture. En fait, très souvent, à la base de chacun de mes projets, il y a quelques lectures qui me marquent, quelques découvertes que je fais. Moi, je suis très livre documentaire et très livre essai. Je suis très peu fiction. Et du coup, je cherche un peu en lisant des choses qui potentiellement peuvent m'intéresser. Et c'est là-dedans un peu que je trouve mes sources d'inspiration pour mes projets artistiques. Et puis, très, très souvent, en effet, ça parle de notre lien aux autres, notamment aux autres animaux, à l'environnement qui nous entoure et ce rapport un peu étrange qu'on entretient avec les autres espèces et qui, finalement, est venu petit à petit s'imposer à moi. Mais une vraie raison, je ne la sais pas, c'est juste que je me sens beaucoup trop sensible, beaucoup plus. Enfin, je veux dire, on parle toujours des humains et de leurs soucis, et c'est très bien. C'est bien aussi de parler d'autre chose et puis on se rend compte que parfois aborder des thématiques, des films, des projets artistiques en lien avec les autres espèces, d'un côté, les animaux sont toujours un peu le reflet, le miroir de nous-mêmes et en même temps, ça nous permet d'élargir un peu notre palette émotive, notre palette de considération et j'ai toujours dit, plus on en sait sur les autres, mieux on les comprend, mieux on peut se projeter, plus on rentre en empathie. Donc, j'aime bien raconter des choses un peu méconnues des espèces qui nous entourent.
Est-ce que pour toi, il y avait une volonté un petit peu militante, c'est-à-dire vraiment de te dire avec ta production artistique, de contribuer à faire changer le regard sur la relation qu'on peut avoir avec les animaux?
J'aimerais, et c'est partiellement l'intention. Cela dit, c'est compliqué à... Moi, j'ai de la peine à me définir militant dans ce sens parce que, en général, les courts-métrages que je réalise, et puis récemment, long-métrage et quelques livres, très souvent, pour les réaliser, j'ai des financements. Et quand le projet est financé, et en tout cas on obtient de l'argent pour le faire, j'ai de la peine à concevoir ça comme un projet militant parce qu'on m'a payé, enfin je reçois de l'argent pour le faire. Je dirais que parmi les quelques trucs que j'ai faits, ceux pour lesquels j'ai presque pas eu d'argent ou que j'ai fait presque bénévolement, je les trouve plus militants. Disons que, mais par exemple, le Bestiaire désenchanté, le livre dont tu as parlé avant, eh ben, j'ai pas, bon, été payé, c'est presque un livre bénévole, mais j'y tenais tellement que du coup, ben, oui, on peut dire que c'est militant dans le sens où je tenais tellement à dire ce qui était dit dans le livre que du coup, je l'ai fait gratuitement parce que c'était trop important pour moi et j'ai envie de le partager, faire en sorte que ça puisse toucher des gens. Si j'ai envie de vivre de ce métier, ben, comme c'est le cas, ben, du coup, des fois, y a des compromis à faire. Et puis, le terme militant dans le milieu artistique, c'est toujours compliqué à gérer parce que j'ai un peu de peine, moi, à dire qu'un film est militant quand il va aux Oscars, quand il est au César, il rafle tous les projets. Enfin, je veux dire qu'il a un succès mondial, c'est plus vraiment un film militant. Ça veut dire qu'il est si bon et si. Non, pire, c'est qu'il est
Ça
si
dépend.
moyen que du coup, il plaît à tout le monde et que du
Oui,
coup,
il est
j'ai
un peu
peur que ça ne me suffit.
consensuel, voilà.
Ouais, voilà, c'est qu'en fait, si un film est militant et que du coup il veut secouer un peu, il se veut un peu, ouais, enfin, avant-gardiste ou même juste qu'il veut ne pas laisser les gens indifférents, bah, il peut pas être consensuel, il peut pas être Passepartout, il peut pas être Netflix, il peut pas avoir cette volonté de plaire à tout le monde.
Oui,
Le
tout à
but,
fait.
c'est être, voilà, c'est mettre peut-être mal à l'aise, ou même simplement un tout petit peu, hein, mais juste amener les gens un petit peu hors de leur zone de confort pour qu'à la fin du film, par exemple, bah, ils puissent y rester un tout petit peu avec leur cerveau et pas l'oublier immédiatement. Ça, c'est déjà pas mal.
C'est déjà très très bien. Alors, tu as commencé à parler de ton bestiaire, la bestiaire désenchantée. Alors, je crois que il y avait trois bestiaires, effectivement, qui sont parus aux éditions 41. Est-ce que tu peux nous parler justement de la jeunesse de ces trois bestiaires que tu as réalisés?
Oui, j'ai tout d'abord commencé avec un bestiaire helvétique qui faisait l'état de lieu de la faune suisse. C'est un petit pays, ça m'a permis de rassembler tous les vertébrés de Suisse, qui sont quand même plus de 400. Et l'idée, c'était non seulement de raconter les animaux du pays dans lequel j'habite, ça, on s'en fout un peu dans le sens je m'en fiche de parler de la Suisse, mais quand j'ai découvert que la Suisse était le pays au monde avec le plus grand nombre d'animaux en danger par rapport au nombre total, je me suis dit, ah tiens, ça c'est vraiment pas le genre de choses qu'on s'attend quand on parle d'animaux suisses. On pense aux Alpes, aux forêts, tout va bien, verdoyant, c'est chouette, mais en fait, bah non, quand j'ai pu parler à des gens du WWF, WWF, ils m'ont dit, bah non, en fait, en réalité, ça se passe très mal. Il y a beaucoup de zones et d'habitats qui sont menacés et que du coup menacent ces espèces. Et du coup, j'avais envie de faire un peu un état de lieu, mais comme je ne suis pas un scientifique, j'avais envie de le faire un peu à ma façon, donc avec des illustrations un peu amusantes, un peu ludiques, et qui en même temps renvoient à des anecdotes que j'avais rajoutées comme texte, et qui parlent un peu de l'état de lieu et du rapport qu'on a avec ces espèces. Elles font partie de nos légendes, de nos proverbes, elles sont sur nos étendards, enfin, toute une série de choses, histoire d'avoir un portrait, mais j'aime bien avoir une vision générale des choses quand je travaille sur quelque chose. Et là, c'était vraiment, bah, comme il n'y avait pas encore de livre là-dessus, bah, je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Et comme bon, c'est un livre qu'on peut franchement lire qu'en Suisse, vu que ça parle que de faune helvétique, mais et suite à celui-là, bah, du coup, j'ai demandé la permission à mon éditeur de me pencher sur quelque chose d'un poil plus, voilà, tu l'as dit, militant, en tout cas qui me tenait bien à cœur. L'idée, c'était de parler de notre rapport à toutes les autres espèces, vertébrées ou pas, hein, et tout ça, disons animales. Et en 50 espèces, 50 facettes, 50 exemples, aborder cette façon de vivre avec ou pas du tout avec.
Oui, parce que dans le bestiaire désenchanté, c'est vrai, là, ce livre-là que tu dis beaucoup plus militant, c'est clair. Tu le dis bien, c'est à la fois léger avec les illustrations, mais c'est aussi assez terrible parce qu'en 50 dessins, tu décris bien l'ampleur et la terrible réalité de l'exploitation imposée à beaucoup d'animaux.
Ouais. Et après. Ce qui m'intéressait, parce que ce qui m'intéressait, c'est raconter en effet ce qui est dedans. Et ce qui a intéressé mon éditeur, parce que c'est pas forcément un éditeur militant, enfin, c'est plutôt un éditeur scientifique, il publie des textes de l'École Polytechnique. Et l'idée, c'est que le livre soit le plus factuel possible. C'est que toute réflexion que j'amenais était basée sur des données très facile à retrouver, notamment ceux de l'OMS ou de Greenpeace, je ne sais pas, et que du coup, tout ce que je proposais, notamment la réflexion sur le comportement des animaux dans les zoos et tout ça, venait de recherches, en tout cas de données faciles à trouver et qui étaient scientifiquement prouvées. Et du coup, ça, pour ça, il était d'accord, il aimait bien qu'on puisse parler d'antispécisme, de véganisme et de notre rapport aux animaux avec des faits simples. Et qu'ensuite on laisse la place au lecteur pour se dire, oula, ah ouais, quand même.
Est-ce que de
Parce
Marcel,
que.
du coup, t'as des exemples pour les auditeurs et les auditrices, des exemples un peu de sujets que tu abordes dans le Bestiaire désenchanté, en fait, pour leur faire
En
toucher
fait,
du doigt un peu le contenu du livre?
oui, l'idée c'était par exemple de parler de pêche, à chaque animal, et en fait, il y a le portrait d'une espèce à chaque fois, et un texte qui l'accompagne, qui fait le lien entre l'espèce et le sujet que je vais aborder. Par exemple, pour parler de la pêche industrielle en général, je parle d'une espèce que très peu de monde connaît, c'est l'anchois péruvien, qui est le poisson le plus pêché au monde et probablement de l'histoire, selon les historiens, et qu'en fait, ben, on n'a pas vraiment l'habitude de le manger parce que le gros de la pêche de ce petit poisson devient de la farine animale qu'on donne à d'autres animaux. Eh ben, ce qui m'intéressait, c'était non pas pointer du doigt et dire, ah, c'est trop mal la pêche, parce que ça, c'est voilà, peut-être certains lecteurs n'ont pas envie qu'on leur parle de cette façon-là, mais dire simplement, regardez, il y a un poisson, c'est le plus pêché au monde, personne ne le mange parce qu'on ne le connaît pas. Par contre, voilà, le gros de la pêche de ce poisson est destiné à nourrir d'autres poissons. C'est presque ridicule. Donc, amener des faits pour parler de quelque chose de très concret. Ça, c'était un exemple. Ou alors, maintenant, j'ai plus en tête tous les sujets, mais l'idée, c'était aussi de parler aussi de façon un peu positive. Notamment, il y a un chapitre qui parle de la réintroduction. Pour partir sur une note plus positive du fait que voilà, il y a des espèces qui ont été presque exterminées et ensuite, ben, une fois la prise de conscience mise en lumière, se sont rendus compte que ces espèces, comme le jupaillé de barbu par exemple dans les Alpes, n'étaient pas dangereux pour le bétail, n'étaient pas dangereux pour les gens et du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne se nourrissaient que de ossements et de cadavres. Mais du coup, ils se sont dit, ah ouais, mais finalement, ça vaut la peine de le laisser vivre et le réintroduire, chose qui était arrivée dans les années 70, alors qu'il avait été exterminé parce qu'on pensait tous qu'il était nuisible, entre guillemets, quoi. Donc, l'idée, c'était vraiment de parler de 50 aspects différents. On parle d'empathie, on parle d'animaux liminaires, on parle de carnisme, d'alimentation, de qu'est-ce que la B12, comment la trouver en nature, comment certains animaux la trouvent et quelles sont les différentes facettes de. À nous de pouvoir la manger, emballer dans une comprimée ou dans une vache, ce genre de choses.
Oui, en tout cas, c'est un livre qui a introduit plein de notions qui sont très, très intéressantes, justement, à conseiller aux personnes qui découvrent un petit peu
Bah,
tous ces
ce que
sujets-là.
j'ai remarqué, c'est que il existe, en tout cas au niveau littéraire, un milieu qui peut parler de ça. Je veux dire, il y a des livres qui parlent de véganisme, d'antispécisme et de tout ça. De militants et tout ça. Et ça existe depuis un certain temps dans les librairies. Au cinéma, ça n'existe pas. C'est encore un sujet, je trouve, assez tabou. Dans le sens, même enfin, que ce soit dans les films pour le grand public, dans les films d'animation et même dans les films un peu expérimentaux, tout ça, parler de ce genre de sujet, c'est encore assez mal vu, quoi. Parce que quand même, ce milieu représente une minorité qui n'est pas encore si bien acceptée. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans le milieu littéraire, ça a son public. Dans le cinéma, ce n'est pas le cas, je trouve. C'est mon constat. Je sais pas si, peut-être que
Eh
quelqu'un
ben,
vient me contredire.
on reparlera après un petit peu des courts-métrages que tu as réalisés. Là, je voulais faire le lien avec, parce qu'il y avait le Bestiaire désenchanté, puis il y a celui que tu as sorti là, cette année, le Bestiaire de la sixième extinction. D'ailleurs, le lien, j'ai retrouvé la tourte voyageuse. Voilà, peut-être que tu
Ah
peux en parler, qu'on trouve à la fois dans le Bestiaire désenchanté, qu'on trouve aussi dans le Bestiaire de la sixième extinction. Donc, ça peut permettre peut-être d'introduire ce dernier ouvrage que tu as réalisé cette année.
j'ai même fait un court-métrage sur la tourte voyageuse, sur la
Ah.
dernière tourte voyageuse, parce qu'elle portait un nom, on l'avait nommée Martha, en hommage à Martha
D'accord.
Washington.
Ouais.
En fait, la dernière, elle s'est éteinte au zoo de Cincinnati en 1912. En fait, à l'époque, c'était l'oiseau le plus nombreux sur Terre, c'était un pigeon migrateur, on l'appelait aussi, qui vivait au nord, à l'ouest des États-Unis et du Canada, et se déplaçait en des groupes immenses de plusieurs milliards. Et en fait, en quelques décennies seulement, il a été exterminé par la chasse et par la destruction de son habitat, bien sûr, la persécution, et puis l'arrivée de quelques maladies aussi, je pense. Et en fait, à lui seul, je trouvais assez emblématique, bien plus que le dodo, parce que le dodo, tout le monde le connaît,
Oui,
de
celui qu'on
cette
cite toujours.
disparition des espèces. De quoi?
Celui qu'on cite toujours, effectivement, quand on parle
Ben
d'extinction
oui.
d'une espèce.
Parce que c'est une des premières espèces dont on a constaté en live la disparition. Mais la tourte voyageuse, pour moi, elle représente encore plus ça, parce qu'en fait, elle est devenue, elle était, elle symbolise l'impossible qui devient possible. L'espèce la plus nombreuse sur Terre en termes de nombre d'oiseaux, en quelques décennies, elle disparaît à jamais. Alors, c'est un truc qu'à l'époque, personne ne pouvait s'imaginer. Je veux dire, il y en avait tellement qu'on tirait un coup de fusil en l'air, il y en avait une trentaine qui tombaient. Donc, s'imaginer que cette espèce puisse disparaître en quelques décennies, c'était impossible. Et bien pourtant, c'est arrivé. Et du coup, voilà, pour moi, c'était un peu une histoire intéressante à raconter, parce que c'est vraiment une mise en garde. Méfions-nous, qu'on a toujours l'impression que les choses prennent du temps, et des fois, on ne maîtrise pas cette temporalité. Et le moment où on se rend compte que les choses vont mal, c'est peut-être trop tard. Et du coup, et tirons des leçons, prenons exemple, essayons de connaître ces histoires-là, car elle risque d'être oubliée, parce que juste comme tu as bien dit, on connaît le dodo, mais tout le monde connaît le dodo, mais est-ce qu'on connaît vraiment d'autres espèces qui ont disparu? En époque récente, je veux dire, pas les dinosaures. Et à partir de cette question que je me suis posée à moi-même, je me suis dit, en fait, oui, j'en connais quelques-unes, mais je pense que je peux les compter sur les doigts de ma main. Et du coup, d'où l'idée de faire un livre, Le bestiaire de la sixième extinction, qui illustre et accompagne avec un petit texte tous les vertébrés disparus depuis la fin du Moyen Âge, donc depuis 500 ans, qui en fait, pour la plupart, sont totalement inconnus du grand public. Et moi en premier, hein, quand j'ai fait le livre. La plupart n'ont même pas un nom commun, c'est seulement un nom scientifique. La moitié de ces animaux, il ne reste qu'un squelette ou quelques plumes, quelques dessins, très peu de photos, presque aucune vidéo, quelques rares témoignages de l'époque des derniers qui les ont vus. En fait, non seulement ces espèces disparaissent et ont disparu, mais la mémoire de ces animaux disparaît, ce qui fait qu'on a l'impression que finalement, c'est pas si grave. Alors que si on regarde l'ensemble de ça, on se rend compte que c'est bien plus grave. Parce que plus on oublie ce qui s'est passé, plus on a l'impression que ce qui se passe maintenant n'est pas si grave. Mais si on a vraiment une vision d'ensemble, on se rend compte que ça ne date pas d'hier, quoi.
Et justement, comment tu as pu, comme tu as fait là aussi dans ce bestiaire-là, un travail d'illustration, comment tu as pu travailler tes dessins, sachant que parfois, il n'y avait plus forcément de traces
Ouais.
de ces animaux, peut-être des descriptions. Comment tu as travaillé pour réaliser tes illustrations pour ce
C'est
livre-là?
vrai que pour une partie, il y a carrément, je n'ai même pas trouvé de véritable illustration d'époque ou récente de l'animal, quoi. Il y en a même certains où il y a, même dans la description scientifique d'origine, en général, elle est toujours accompagnée d'animal empaillé, ou en tout cas, cadavre du dernier animal trouvé. Mais pour certains, il n'y avait absolument rien. Du coup, j'ai dû me fier aux descriptions ou aux animaux qui leur ressemblaient. Et puis, parfois, j'ai dû même appeler des scientifiques pour leur demander, mais écoutez, j'ai besoin de votre conseil ou une référence parce que j'en trouve pas. Pour certains animaux, il y avait vraiment très, 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 très peu d'infos. En fait, les infos se perdent. Donc, je me suis arrêté au Moyen Âge parce que bien avant ça, il n'y a presque aucune source, aucune référence, et surtout aussi avant, on pensait que les sirènes existaient, donc voilà, il faut pas remonter trop le temps. Mais disons, à partir des premiers gros voyages de conquête de la fin du Moyen-Âge, c'est là que le gros des disparitions a commencé, quoi.
Mais ça a dû être un travail très important, c'est colossal, parce que je ne me rappelle plus combien il y a d'espèces que tu évoques dans le bestiaire de la sixième extinction. Je
Ouais,
crois qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup.
418,
400, oui.
un truc comme ça, ouais.
Donc j'imagine que ça a dû être un travail de recherche colossal, effectivement, pour pouvoir réaliser toutes les illustrations et puis les petits textes aussi qui accompagnent
Ouais,
les illustrations.
c'est ce que je préfère dans mon travail, c'est chercher les infos, je crois. J'aime bien
Ouais.
avoir, comme je disais, même si ça ne se voit pas dans le film ou dans le projet ou dans le livre, j'aime bien avoir une vision générale des choses et lire tout ce qui entoure ce sujet. Après, ça se verra peut-être pas, mais c'est pas grave. Dans ma tête, j'aurai des réponses aux questions que je me suis posées.
Et tu cites pour beaucoup de ces espèces justement les raisons en fait supposées de leur disparition. Est-ce que tu peux donner quelques exemples aux auditeurs et auditrices?
La
Il y a des
raison
choses qui reviennent
de.
régulièrement.
En fait, la raison principale, de près ou de loin, est toujours l'humain. Mais si on regarde le livre dans l'ensemble et les raisons dans l'ensemble, on se rend compte qu'elles évoluent et se multiplient à fur et à mesure. Au début, c'était surtout les premiers colons qui débarquaient sur les îles ou les territoires sur lesquels les Européens n'avaient pas encore mis pied. Ils ont amené des singes, des chiens, des rats, des mangoustes qui, ben, en premier, ont exterminé les animaux qui n'avaient pas de prédateurs naturels. Ensuite, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'était la destruction de l'habitat de ces espèces qui n'avaient bien sûr que très peu d'espace pour eux, notamment s'il s'agissait d'animaux qui vivaient sur les îles. Et suite à ça, c'est la surchasse et la surpêche qui les a commencé à décimer. En fait, c'est venu petit, à chaque on va dire chaque siècle, il y a sa raison, sa cause principale qui a été amenée. Donc, après la destruction de l'habitat, les espèces invasives et la surchasse et la surpêche, c'est surtout la pollution au début du XXe siècle qui a amené la disparition de beaucoup d'animaux, beaucoup de poissons, notamment la pollution des rivières, des zones humides et tout ça. Et en tout dernier, une raison plutôt récente, mais non moins une raison très importante, ce sont les changements climatiques. Donc ça, c'est les cinq raisons qui se sont cumulées au fur et à mesure en 4-5 siècles et qui sont les cinq raisons indiquées par l'ONU qui menacent principalement la faune et la flore de cette planète. En 2009, sur une petite île australienne, le Mélomys rubicola, c'était un rongeur endémique d'une petite île, a été déclaré éteint et ce fut la première espèce éteinte officiellement à cause du réchauffement climatique. Donc voilà, ça a vraiment commencé. On peut vraiment dire que le réchauffement climatique fait véritablement disparaître les animaux, quoi.
Et donc, dans ce bestiaire, la sixième extinction, tu l'as dit, hein, tu ne parles que des vertébrés. Donc, on imagine que le livre a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus épais si tu avais intégré tout ce qui était invertébré, en plus,
Ben, ça,
dedans.
c'est la pointe de l'iceberg, parce que les vertébrés, on a l'impression qu'ils sont proches de nous, on a l'impression qu'on les connaît, parce que ils provoquent plus d'empathie que les invertébrés, et parce qu'on a toujours l'impression qu'il y en a plus parce qu'ils nous ressemblent. En réalité, le gros, ce sont des invertébrés, des arthropodes. Et évidemment, ce sont ceux qui souffrent le plus. La disparition des insectes, notamment, elle est plus terrifiante, elle est beaucoup plus rapide. Mais elle est beaucoup plus invisible parce qu'on n'aime pas les petites bêtes, parce qu'on ne les remarque pas, parce que les effets sont différents. Parce que oui, peut-être on remarque que nos pare-brises sont moins sales cette année que l'année passée, mais les effets se feront sentir sur le long terme de façon indirecte. Non pas parce qu'on ne verra plus d'insectes, mais parce que les animaux peuvent plus s'en nourrir, parce que certains ne peuvent plus polliniser, etc. Et oui, par contre. Aborder ça espèce par espèce semblait compliqué, surtout que pour une très grande partie, on ne dispose pas d'informations. C'est très compliqué de savoir si une espèce d'insecte a disparu. L'extinction des espèces ne se mesure pas en espèces. La disparition des insectes ne se mesure pas en espèces, mais en nombre d'individus. En fait, bah, ils disparaissent en grosse masse. Après, savoir quelle espèce a disparu vraiment, c'est difficile de savoir.
Alors Marcel, j'aimerais maintenant que tu puisses évoquer ton travail de réalisateur. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure là avec le court-métrage consacré aux tourtes. Donc tu réalises des films d'animation, tu as fait pas mal de courts-métrages où là encore tu abordes le sujet des animaux. Est-ce que tu peux présenter aux auditeurs, aux auditrices quelques-uns des films que tu as réalisés où tu abordes le sujet des animaux?
Là, ça fait environ 15 ans que je réalise du court-métrage. Faut dire que les gens qui travaillent dans le cinéma d'animation font principalement du court-métrage. Et de temps en temps, s'ils ont la chance, ils peuvent faire du long-métrage. Ce sont des courts-métrages que j'ai produits ici en Suisse avec la même société de production qui s'appelle Nadas des Films. Et en ce moment, j'en ai réalisé une dizaine. Et pratiquement tous parlent soit de disparition des espèces, soit de notre rapport aux animaux. Alors, parce que la politique de mon producteur et comme ça, la plupart ne sont pas disponibles gratuitement online. Même si on ne gagne presque rien en faisant du court-métrage, l'idée c'est que, en tout cas pour mon producteur, c'est que les mettre gratuitement online, c'est comme s'ils avaient aucune valeur. Donc, on peut les trouver et les louer pour un euro sur Vimeo. C'est pas ça. De toute façon, le gros de la vie d'un court-métrage est principalement dans les festivals de films. Ensuite, quelques-uns, des fois, peuvent être mis online. Je crois que de mes courts-métrages, il y en a un seul qui est
Un seul
online.
qu'on trouve, moi j'ai vu, c'était dans la nature, c'était le seul que j'ai trouvé.
Exactement, c'est dans la
Voilà.
nature qui est probablement celui qui a eu le plus de succès de mes courts-métrages et qui parle de mon sexualité animale et transidentité. En fait, c'est un court-métrage pour enfants. C'était la première fois que je faisais explicitement pour les enfants un court-métrage qui, voilà, qui aborde l'homosexualité dans le royaume animal de façon très simple, didactique presque, en se référant à la biologie, aux exemples qu'on connaît de nos jours. Voilà, très factuel, très, c'est comme ça, et voilà. Et pour les autres cours, il y a sûrement des extraits ou quelqu'un qui l'a téléchargé légalement quelque part, j'imagine, mais ça, c'est pas très grave. Et puis, si vraiment quelqu'un a envie de le voir, il m'écrit, ou bon, je pense qu'il y a moyen de les voir autrement, de temps en temps, il repasse par-ci, par-là. Oui, c'est un peu comme ça, il y en a qui décident de mettre leur cours online et d'autres pas, bah, j'ai un producteur, il pense que chaque chose qu'on fait a une valeur, alors il préfère qu'on paye 1 € et plutôt que scroller entre un film et l'autre. Voilà,
Donc on peut les
chacun.
trouver, voilà, si les auditeurs, les auditrices veulent le découvrir, ils peuvent aller sur la VOD, ils pourront trouver ces courts-métrages.
Bah, bien sûr.
Ouais, ok.
Et puis, bah, oui, à chaque court-métrage, bien sûr, c'est différent. Et puis, la technique est souvent la même, c'est du dessin animé, hein, c'est là où je m'exprime le mieux. Mais par exemple, donc, il y a eu celui dont on a parlé, Dans la nature. Un autre que j'aime bien, mais qui circule moins, il s'appelle Un étrange procès, où en fait, je parle de chasse. Parce qu'en fait, je viens d'un petit village dans la partie italophone de la Suisse, où en fait, tous les mecs chassent, à part moi et mon frère. Et du coup, ben, c'est même pas une tradition, c'est juste, c'est un acquis. C'est genre, si t'es un mec, tu vas à la chasse, c'est normal.
C'est le
Tu fais la
passage
saison de la
obligé.
chasse. Bah, presque, dans le sens, ça paraît un peu étrange. Et en effet, j'ai toujours paru étrange. Et du coup, ça me paraissait évident qu'à un moment donné, je fasse un film là-dessus. Et alors, le film n'est pas vraiment un film sur la chasse, mais plutôt moi qui raconte à mon père que je veux faire un film là-dessus. Et du coup, lui, il me fait part, par téléphone, de ses inquiétudes ou ses observations, ses conseils aussi. Il pense que, voilà, qu'est-ce qu'il me dit ce qu'il pense que je pourrais faire et tout ça. Et puis finalement, le film est plutôt une déclaration d'amour à ma famille en leur disant que malgré nos différends, malgré que je ne partage pas du tout leur avis sur la chasse, malgré ça, on s'aime quand même. Mais voilà, il y a ce différend. Et puis le film essaie de montrer différentes facettes, d'en parler avec humour toujours, j'essaye, parce que voilà, il y a ce sont des sujets un peu sensibles. Et j'aime bien que l'humour s'y glisse un peu parce que voilà, ça permet d'aborder plus facilement des choses un peu lourdes. Et puis même, je crois qu'on se souvienne mieux de ce que je raconte si j'y glisse un peu de trucs rigolos. Ce qui est drôle, c'est que dans le film, j'y ai glissé aussi. En tout cas, moi, j'aime bien cette idée. C'est que c'est surtout un échange entre moi et mon père. Et à la fin du film, il y a ma mère qui intervient et qui raconte un petit conte qu'elle avait écrit quand elle était enfant d'un chasseur qui, en fait, est amené devant un juge. Pour ses méfaits. En fait, c'est les animaux de la forêt qui font un procès aux
D'accord.
chasseurs. Et je trouvais ça drôle que, en fait, ce contrepoint de ma mère quand elle était petite, elle avait écrit un truc comme ça, alors qu'elle est mariée à un chasseur. Voilà.
Et au début de l'année, là, tu as fait une collaboration avec l'Observatoire du spécisme, qui est une association de Genève, où tu as réalisé une
Oui.
série de 4 courts-métrages. Est-ce que tu peux présenter l'association et nous parler de cette série que tu as réalisée pour eux?
Bien sûr, l'Observatoire du spécisme, c'est une association récente. Enfin, avant, elle s'appelait PEA pour l'égalité animale. Et puis, ils ont changé leur statut, leur nom, pour se dédier à des choses un peu plus différentes. Et en fait, voilà, ils font la promotion de toute une sorte de matériel éducatif, hein, et ils font des enquêtes, ils font des reportages autour de la cause animale. Et moi, j'aimerais bien des fois me rendre plus utile. Et quand je leur ai dit, bah, j'aimerais bien faire quelque chose pour vous, mais j'ai l'impression que je ne sais rien faire. Mais si vous voulez, je peux vous faire des films bénévolement. Et alors, elle aurait dit, oui, quelle idée tu as. Mais je lui ai dit, je pourrais faire 4 petites fausses pubs qui appellent à poser des candidatures dans l'industrie de l'élevage. Et du coup, la petite série qu'on peut trouver online sur le site de l'Observatoire du spécisme s'appelle L'élevage engage. Et du coup, à chaque fois, on évoque un métier méconnu de l'élevage suisse, en évoquant des données, des faits qu'on a collectés, mais voilà, de façon ironique, en disant, ouais, c'est trop chouette, si tu veux chercher un travail parce que tu as toujours froid aux mains, ben, l'inséminateur artificiel, c'est le boulot pour toi. Ce genre de choses. Et l'idée, c'était de faire 4 petits clips qu'on peut trouver online, avec lesquels l'Observatoire du spécisme a construit tout un dossier autour qu'on peut consulter avec des données et des recherches qui explique un peu plus, qui vont un peu plus loin que le simple clip. Le clip, il dure 1 minute et demie seulement. C'est rigolo. Je mets quelques données dedans. Mais l'idée, c'était d'abord approcher un sujet et ensuite, on peut lire le dossier qu'eux, ils ont très bien
Oui,
construit.
mais ça c'est assez drôle. J'aimais bien aimer le designer de matériel pour l'élevage. très, très, très drôle et très grinçant. Et c'est une série qui a été. Elle est sur le site, effectivement, de l'Observatoire du spécisme, parce qu'elle a donné lieu à une campagne, une diffusion particulière.
Oui, je crois qu'ils ont fait une sacrée promotion et puis elle est toujours visible, hein. Je ne sais pas quoi rajouter de plus, mais
Ouais,
de mon
bon.
côté, c'était un peu un truc un peu différent d'habitude parce que voilà. Peut-être que ça, on peut dire que c'est un travail militant dans le sens que c'était fait pour une association qui a un but précis, qui milite pour et que pour lequel bah, on n'a pas mis un sou dans le sens bah, on a fait tout ça bénévolement, autant les recherches, autant moi la réalisation et l'animation et même les personnes qui m'ont aidé à faire le son, ils ont l'habitude de travailler avec moi, ils sont super cool et puis c'est comme c'était le travail de quelques jours. Pas de souci, de toute façon, ils savent qu'on retravaillera ensemble sur des projets pour lesquels ils seront payés. Ils ont compris que la cause était importante et c'était super chouette.
Et du coup, Marcel, est-ce que tu veux parler maintenant de Marie Anning? Donc là, tu es passé au long métrage cette année. Il est sorti là en France ce mois-ci. Est-ce que tu veux
C'est
parler
vrai,
un
il est
petit peu de ce
sorti.
film, j'imagine, qui a dû être un gros travail pour toi? Et puis,
Ouais,
j'ai vu que
c'était
ça a
un
été un
peu.
beau succès critique aussi.
Oui, en tout cas, pour l'instant, ça plaît. Après, c'est au public de décider si ça vaut la peine d'y aller ou pas, hein. Il est sorti en France le 17 septembre. Il sort demain en Belgique et il sort en Suisse à la fin de l'année. Après, il sortira dans d'autres pays, je ne sais plus exactement lesquels. Il est en train aussi de faire un peu le tour des festivals. Donc, c'est un film qui sort en salle et aussi pour les festivals. C'était pour moi un peu une nouvelle étape parce que habitué au court-métrage. Ben, c'est clair que ça change la donne, ça prend plus de temps, c'est bien plus cher et ben, ça multiplie par, je ne sais pas, au moins par 10 le nombre de collaborateurs. Enfin, ça multiplie par 10 tout, je crois. La question, au début, quand mon producteur m'a dit, bon, Marcel, maintenant tu as fait assez de cours, ça serait bien que tu fasses un long, c'était de quoi je vais parler. Et ça, c'est pas évident parce que. Alors, je suis très content du film que j'ai réalisé. Enfin, c'est pas à moi de juger s'il est bien ou pas, mais je suis content d'où je l'ai amené. Mais le plus dur, ce n'a pas été de réaliser, mais trouver de quoi parler. Donc, parce que si je voulais aborder, comme mes courts-métrages habituels, de façon documentaire, un sujet en lien avec la cause animale, ça aurait été très, très dur. Déjà parce que ce genre de sujets ne sont jamais abordés dans le film d'animation. Si on accepte Chicken Run, qui
Oui,
date quand
c'est
même
vrai,
d'il y a 20 ans,
tout à fait.
c'est vraiment un sujet alors tabou en général pour le cinéma et dans le film d'animation, improposable parce qu'aucun parent aura envie d'amener voir les enfants un film qui parle d'abattage et ce genre de choses, même s'il est rigolo. Donc, un petit défi, bah, j'aimerais pour le prochain. On verra. Mais, et du coup, alors avant tout, je me suis dit, bon, le cinéma d'animation, ce n'est pas que pour enfants, malheureusement, heureusement, mais le public est principalement fait d'enfants. Il n'existe pas encore un véritable public adulte pour le cinéma d'animation. Du coup, pour le réaliser, allez, je me suis orienté assez vite vers un film pour la famille, mais qui n'emmerde pas les parents. Et du coup, j'ai opté pour une histoire vraie. Moi, pour moi, c'est essentiel. Donc, tout ce que je raconte, je fais, ça doit être toujours basé sur des choses vraies. Ça m'intéresse pas trop d'inventer de A à Z. Je laisse ça aux autres. Et du coup, j'ai voulu raconter l'histoire d'un personnage. Que je connais depuis tout petit et que j'avais envie de partager avec mes enfants. Je me suis dit, OK, si je fais mon premier long métrage, il faut que je raconte une histoire que je me sens à l'aise et que j'ai envie de partager avec mes enfants et leur génération. Donc, il faut un personnage qui résonne avec l'air du temps et de nos jours. Alors, c'est un peu ironique parce que le personnage, c'est un personnage d'il y a 200 ans. C'est la première paléontologue de l'histoire, c'est Mary Anning, qui déjà à l'âge de 12 ans, a découvert un fossile incroyable, un reptile marin, un ichthyosaure, et qui est venue à elle toute seule avec ce fossile, a révolutionné la vision qu'on avait des fossiles, la lecture littérale qu'on faisait de la Bible, et voilà. En gros, avant elle, c'était un peu le néant, si on peut dire, si je simplifie, hein. Et si on pense qu'elle avait seulement 12 ans, que son père était mort, que la famille était dans la dèche, qu'elle passait ses journées à creuser dans la boue à chercher des fossiles, que c'était une femme, donc aucun droit à avoir un emploi et surtout un emploi scientifique. Eh ben, elle avait du courage. Et je trouvais que c'était un sacré personnage à mettre en film et à proposer à un jeune public. En plus, un autre constat que j'ai fait, c'était aussi qu'il y a beaucoup d'enfants au cinéma et très peu d'enfants vrais. Si on accepte Anna Frank, il y a très peu d'histoires vraies d'enfants au cinéma. Et je me suis dit, tiens, voilà. Parce qu'en fait, aussi, le fait que les enfants aient une place dans l'histoire, C'est très récent, je veux dire. Avant Greta Thunberg, on n'écoutait pas les enfants. Et c'est la génération contemporaine qui finalement a pris le courage, la possibilité, ou ce qu'on veut, de se faire entendre et exiger des choses. Et c'est génial. Et dans le passé, il y a eu des personnages comme ça, mais assez peu qu'on a amené à l'écran, en tout cas d'enfants. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Marianne, parce que voilà, pour moi, ça faisait un peu que écho à la nouvelle génération qui se fait entendre, heureusement. Et en même temps, voilà, quelqu'un qui se bat pour des idées qu'elle pense positives et parce qu'elle les aime et parce qu'elle pense que c'est juste. Et non pas pour un changement de statut social ou je sais pas quoi d'autre. C'est pas, elle veut pas devenir une princesse ou devenir riche. Elle aime son travail, elle sait ce que sont les fossiles, elle veut qu'on les connaisse et elle essaie de gagner sa vie avec ça. Alors voilà, je me suis dit, il y a de quoi raconter une chouette histoire pour la famille.
Alors, du coup, Marcel, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement? Et d'ailleurs, tu as fait déjà trois bestiaires. Est-ce que éventuellement tu avais un projet d'un autre bestiaire?
Pas pour l'instant, mais oui, j'ai toujours des projets en cours. Ça, je peux pas. Quand je finis un travail, il y en a toujours un autre qui arrive derrière. Donc, en ce moment, mais pour l'instant, c'est surtout des projets filmiques, de livres. Pour
Ouais.
l'instant, j'ai rien. Et ben, j'essaie de réaliser mes nouveaux projets de long métrage. Donc, il y en a un en réalisation et un en écriture. J'aimerais
D'accord.
bien. Enfin, on est en train d'écrire, j'espère mon prochain long métrage pour la famille, qui cette fois, si tout va bien, parlera bien plus d'animaux. Donc,
Ouais.
on verra bien où ça va aller, parce que pour faire un long métrage, il faut des années et de l'argent. Mais l'idée, c'était de raconter l'histoire vraie d'une vache qui s'est échappée d'un abattoir et qui s'est cachée dans une forêt aux Pays-Bas pendant 3 mois.
D'accord. Ouais.
C'était l'histoire qui est arrivée en 2017. Et du coup, on s'est inspiré de ça pour construire un récit. Et en parallèle, je suis en train de faire le montage d'un nouveau long métrage, mais celui-ci, c'est la première fois que c'est un film que mes enfants ne pourront pas voir, parce que c'est un montage fait à partir d'images qu'une association a obtenues en plaçant des caméras cachées sur le dos de certains animaux qui vont à l'abattoir.
D'accord, donc
C'est une espèce de suivi de plusieurs animaux de l'élevage à l'abattage. En fait, le projet s'appelle Le référent absent et l'idée c'était de mettre en image et en suivant les animaux du point de vue animal, tout ce qu'il y a entre la phase élevage et la phase consommation. Donc la phase élevage, qu'elle soit familière ou industrielle ou ce qu'on veut, ça elle est très visibilisée dans le sens où on la connaît, on a un imaginaire qui va avec. Même chose pour les steaks dans les supermarchés ou les grillades. C'est pas ça on connaît, mais ce qu'il y a entre deux est assez invisibilisé et ça produit peu d'images et peu ancré dans notre imaginaire. Les élevages sont bien sûr éloignés des points dans lesquels on vit. Et du coup, l'idée, c'est de raconter ça avec ces images-là, qui sont assez, bah, enfin, je dirais inédites dans le sens où il y a des images volées dans les abattoirs et ce genre de choses, mais
Oui, comme le fait
peu.
L214, par exemple, en France,
Tout à fait, ouais. Ça, c'est un peu malheureusement le seul type d'image qu'on a de ces lieux. C'est pas des endroits qui te laissent filmer facilement, sauf si tu en fais l'éloge. Et du coup, bah, cette association, que pour l'instant peut-être j'ai pas le droit de dire, je la dirai à un autre moment. Mais en tout cas, elle a réussi à développer un dispositif de caméra microscopique qui envoie des images par Bluetooth et qui en fait permet de filmer tout le chemin de l'animal, vraiment du moment
D'accord.
où il rentre dans le camion au moment où il pendouille mort à la chaîne d'abattage. Donc, en fait, voir tout ce parcours avec les attentes, les mouvements, les secousses, les chevauchements, enfin, les courses, les cris, les bruits, tout ce qu'on veut, du point de vue de l'animal, parce que la caméra est sur sa tête, ben, je crois que c'est une expérience qu'on n'a pas l'habitude de vivre et
Oui,
que
ça
j'aimerais
risque d'être
proposer.
un film qui va beaucoup retourner, ceux qui vont le voir. Et donc toi, tu fais le montage
Peut-être,
sur ce film-là, c'est
oui.
ça? Ouais.
Oui, Alpha, c'est moi qui le réalise, mais c'est
Ouais.
principalement des images de roches qui existent. Il y a une partie animée dans le film, c'est notamment le début et la fin. Ce sont les parties qu'on connaît, donc
D'accord.
celles de l'élevage et tout ça. J'ai décidé que ce qu'on connaît, ce qui est parti de notre imaginaire, sera animé, et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir sera ces images réelles
D'accord.
capturées de cette façon. Donc c'est un peu expérimental. C'est pas le genre de film que les gens se disent, je vais aller voir au cinéma. Mais pour ceux qui ont envie, par exemple dans les festivals, de se lancer dans une expérience de ce genre, ben, je pense pas que ça les rend indifférents.
Ouais. Et c'est un film qui sortirait vers quelle période, ça, du coup, Marcel?
Ben, c'est en cours, hein, donc
Ouais.
l'année prochaine, dans une année et demie maximum, je dirais, parce que le gros du film est monté, il y a du travail sur l'animation à faire, enfin, il y a une grande partie de sonorisation, parce que le son, par contre, lui, est de très médiocre qualité, il faut un peu recréer les choses, mais voilà, il y a tout un processus de faire des films, c'est jamais rapide, quoi. Et du coup, il faut compter un mois, une année et demie, je dirais.
Ça pourrait être un film qui pourrait être diffusé. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Il y a le festival Animal Doc,
Bien sûr.
dont c'était la première édition cette année à Bordeaux, qui était porté par le réseau des refuges animalistes là, français.
Après, moi, j'aime bien ces événements.
Ouais.
Le problème, c'est que on parle à des gens qui ont envie de voir ces choses. Moi,
Oui,
j'aime
qui sont
bien
peut-être
qu'on
des.
puisse faire
Oui.
une projection comme ça au Festival de la Saucisse. Tu vois, ça serait génial. Mais
Ça,
bon.
effectivement, ça serait peut-être plus efficace, effectivement, aussi.
Voilà, je sais pas, aller craquer leur serveur et quand ils pensent à qui ils vont voir je sais pas, les tuches, ben, on leur met ça, quoi.
Ça serait une bonne idée.
Voilà, c'est un peu toujours le problème, c'est qu'on
Oui,
a
bien
beau être
sûr.
militant, c'est compliqué, ou faire des projets qu'on a envie qu'ils parlent aux gens, il faut quand même que les gens aient envie de le voir ou que le projet arrive jusqu'à eux. C'est toujours compliqué de dealer, parce qu'on a beau se dire, ah, moi je vais faire ci et ça, mais bon, si la personne voit le film n'existe pas. Donc, l'avantage du court-métrage, c'est aussi un désavantage. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent du court-métrage. Mais l'avantage, c'est que ceux qui vont dans les festivals les voir, ne vont pas voir des films spécifiques. Ils y
Ouais.
vont et puis ils vont finir par tomber sur un programme qui leur propose tel ou tel cours. Et ben si c'est chouette, ben, ils ont des programmes, ils ont des courts-métrages qui vont les amener à droite à gauche. C'est super chouette parce qu'il y a une vraie variété là-dedans. Donc il faut être un peu courageux. Le long-métrage, c'est différent parce que ceux qui décident de dépenser, je sais pas combien d'euros ça coûte le cinéma en France, mais ceux qui ont envie d'aller en salle, des fois ils ont peut-être pas envie qu'on le secoue autant. Ou alors ils tombent dessus si le film passe en salle ou telle ou telle plateforme. C'est tout un autre chemin. Et puis, ben, malin et heureux ceux qui savent comment amener leur projet au public.
Alors, on arrive à la fin de l'entretien, Marcel. Alors, pour découvrir le travail de Marcel Barelli, là, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. Bah, vous pouvez vous tourner vers ces bestiaires, hein, le bestiaire helvétique, le bestiaire désenchanté et le bestiaire de la sixième extinction, qui sont parus tous les trois aux éditions 41. Pour voir les courts-métrages, tu en as parlé, c'était possible de les voir en VOD. Pour voir Marie Anning, c'est encore le cinéma. Tu sais à partir de quand ça sera disponible en VOD pour éventuellement ceux qui l'auraient raté au cinéma?
C'est une bonne question.
Tu n'as peut-être pas encore la réponse.
Non, parce que
Non, parce que tu disais ils
comme il est
continuent de
encore en salle,
sortir.
enfin, pour l'instant, tous mes cours, en tout cas, sont en VOD et c'est facile de les voir. Oui, bien sûr. Oui, non, pour l'instant, il est en salle encore. Et puis, même dans beaucoup de salles, enfin, je crois que les films pour enfants, ils peuvent rester en salle assez longtemps parce qu'ils ne sont pas projetés tous les jours. Ils ne les projettent pas un jeudi matin parce qu'aucun enfant va le
Non,
voir. Du
ils
coup, c'est plutôt le
choisissent
week-end et le
effectivement, oui,
mercredi.
c'est ça, oui,
Et
exactement.
puis, en tout cas, si les gens veulent voir des courts-métrages, ils ont qu'à aller sur mon site. Et pour chaque fiche film, il y a le lien au film en VOD. Donc, c'est très simple.
Et
Voilà.
ton site, c'est comment? Tu peux le dire
C'est
aux auditeurs.
marcelbarelli.com, hein, rien
Tout
d'autre.
simplement. Très
J'ai
bien.
pas beaucoup d'homonymes sur le web.
Donc, c'est parfait, ils ne peuvent pas se tromper alors. Un grand merci, Marcel,
Voilà.
pour ta participation et tes réponses. Avant de se quitter, est-ce que tu peux présenter les deux artistes que tu as choisis pour la pause musicale qui va suivre?
Ah ouais, bon déjà, merci à toi hein, pour l'invitation, c'était super chouette. Les artistes que j'ai choisis pour la musique, alors c'est deux artistes francophones, donc c'est Pomme et Guédré. Ce sont deux filles qui font des chansons qui me touchent beaucoup, une par sa sensibilité et l'autre par son humour très grand sang. Et puis je crois que les deux sont très sensibles à la cause animale et puis elles en parlent dans leurs chansons et des fois ça touche.
Ça touche. Eh ben, on va écouter le morceau Des excuses de Pomme. C'est son dernier single qui est sorti le mois dernier. Et puis pour Giedré, bon, on va écouter le morceau Animal Mort. Je pense que ça fera du lien avec certaines choses que tu as abordées ce soir. Merci beaucoup, Marcel.
Merci.
À la cantine, des fois, c'est pas très bon. Sauf les fois où il y a du jambon. Le jambon, c'est délicieux. On en prend plusieurs parts. Merci le monsieur qui travaille à l'abattoir. Merci d'avoir électrocuté ce bon gros cochon avant de le jeter dans l'eau à ébullition. Merci de l'avoir dépecé et vidé de ses abats pour qu'on puisse se régaler. Le jambon, tout le monde aime ça.
pour prendre très bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. La cantoche, tout le monde le dit, c'est pas un 3 étoiles. Sauf quand y a du poulet rôti, alors là on se régale. Surtout s'il est bien gras, grâce au cage d'un mètre carré, où on en met 10 à la fois, pour pas qu'il puisse bouger. Miam, miam, la bonne cuisse qui n'a jamais marché. Ah ouais, c'est un vrai délice, un bon morceau de poule crevé. Quelle joie de vivre dans un monde où on peut prendre 100 poulets et en quelques secondes, tous les égorger. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. Activement pour qu'on ferme les abattoirs. Ne pense pas à tous ces gens qui travaillent chez Bigard. Peut-être qu'ils adorent ça, tuer des petits lapins, et que c'est leur dada de broyer des poussins. Peut-être qu'en se couchant le soir et en se levant le matin, ils pensent au bonheur de voir une bête mourir entre leurs mains. C'est vraiment un métier super à donner à faire aux gens. C'est très sain, très pépère et très épanouissant. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête.
Louve en juillet de Gabriel Filtoshiba, édition Des Paysages. Une voix singulière s'élève de la forêt boréale, conjuguant louange de notre alliance avec le peuple animal et engagement féministe. Louve en juillet est un témoignage vibrant et intimiste, empreint de poésie et de révolte, célébrant le lien indéfectible entre Gabriel Filtoshiba et sa chienne Sequoia, en mémoire à ces arbres millénaires qui ne craignent ni le feu ni le temps et inspirent tant d'espoir. Sa langue habitée de feu et sa fureur de dire reviennent dans la toute nouvelle collection animale des éditions Des Paysages. Elle se fait l'écho de la résilience d'une femme qui parle au nom de toutes les victimes opprimées, le refus des violences systémiques faites aux animaux et aux femmes, reflet d'un seul et même combat. Plus jeune, elle laissera Montréal derrière elle en gagnant la lisière des bois au creux d'une cabane, préférant chanter avec les coyotes au milieu des épinettes gelées. Rien de tel pour fuir le bruit du monde et se reconnecter à une nature régénératrice. L'œuvre entière de cette autrice canadienne est un chemin de lutte, d'ombre et de lumière, au plus près d'une vibration héroïque. L'ouvrage court est élégant avec sa couleur crème et ses dessins soignés. L'écriture est cathartique, habitée et poignante. La petite coyote grise à moitié chienne est adoptée par la narratrice qui la sauvera d'une balle dans la tête. L'apprentissage de cette nouvelle vie dans la cabane les fait se reposer l'une sur l'autre, dormant comme deux bêtes et hurlant à la lune. « Je suis pauvre, mais je l'oublie depuis que tu es là, » dit-elle à Sequoia. « Tu m'apprends comment prendre soin de toi, » à mesure que j'apprends la vie dans la forêt. C'est une vie rêvée de femelle sans plus d'attache, avec la symphonie des coyotes, quand les fleurs de givre miroitent la lumière saumonée des heures les plus froides de l'hiver. Tant de beauté naturelle, avec ce pelage qui roussit, ses sources de danger, sa gardienne le sait bien. En prenant la route, pour éviter la cabin fever, cette fièvre qui vous prend quand on reste trop longtemps enfermé, les deux inséparables se pose un temps à Kamouraska, siège de la prédation à flanc de montagne, où l'on devine la taille des cougars en posant la main dans leurs traces immenses. La jeune femme à deux doigts d'y passer prend du poil de la bête. Sequoia, elle, est la proie rêvée des braconniers, avec leur triple collet qui laisse peu de chance à la survie. À chaque fois, l'humaine sauvera l'animal qui sauvera l'humaine. Quand l'une plaque ses pattes sur des clavicules frigorifiées. L'autre lui souffle des bouffées d'herbe sur la truffe, la bouche en cœur tout près de son museau. Pour ne pas céder à la tentation de faire la peau à un braconnier, l'autrice se gèle les esprits pour ne pas le tuer. À toutes les deux, on veut leur faire la peau. Sororité entre une chienne et une femme, leur destin semble lié, pour toujours. Une compréhension parfaite, une solidarité sans faille, un amour inconditionnel. Dans ce récit traversé par une volonté de faire, écrit à la première personne, elle s'adresse à sa chienne, Sequoia. Compagne pour la vie, alliée dans la bataille que l'autrice a menée face à la violence de son homme et des autres. Combattre pour mieux se préserver, la lutte est permanente, le qui-vive un réflexe vital, un rituel de femme incrusté jusque dans l'âme. Elle nous parle aussi de désir et de violence sexuelle. Parfois, elle a envie de devenir féroce pour se confronter à la menace des mâles. En tombant enceinte de l'homme qui la violente, elle puise sa force dans sa chienne de garde. Elle se promet d'être le sanctuaire de Fleur, la petite fille qui pousse dans son ventre, comme de son alter ego, chienne. La triade sera solidaire et rebelle, qu'on se le dise. La fuite rêvée d'un chez-soi devenu menaçant se prépare en douce. Ces deux filles lui donnent des idées de grandeur et surtout ce courage qu'il faut pour briser des liens trop familiers qui vous coupent le souffle de la vie. En éclatant de rire face au nid de neige creusé par Sequoia, en sentant sa chaleur, c'est la force qui coule dans ses veines, celle de s'affranchir, de ruser, de tromper l'ennemi. La nuque de Sequoia, c'est peut-être l'endroit où l'odeur est la plus primitive et ça la grise. Face aux gens malveillants et cruels, face à une nature qui parfois ne pardonne pas, l'une veille constamment sur l'autre. La peur vrillée au ventre de la perdre la hante. Les années passent, bientôt Sequoia aura 11 ans. Le vétérinaire dit qu'il faut commencer à s'habituer à la perdre un jour. Jamais. Persuadée qu'une supernova veille sur elle trois, le destin repoussant à chaque fois l'heure du grand départ, l'écrivaine apprend à ralentir sa vie, aménageant du temps pour repos et balade. Sequoia la sauve aussi parfois de l'ennui et de l'amertume. Mère aimante à la truffe humide, elle veille à la porte, chasse les cauchemars de sa gardienne. Un matin, cette vieille chienne louve grise, fille d'une mère alpha, au regard d'ambre embrasé, ira folâtrer sous les pommiers de la voisine pour humer une piste odorante irrésistible. Ce récit poignant à travers épisodes de survie, fuite et résilience se déploie dans les paysages sauvages du Québec en entremêlant introspection et poésie. Intime et engagé, il offre un puissant message d'espoir et de réconciliation, la promesse d'un voyage intérieur qui console. Cette nouvelle collection porte le souffle des femmes qui ont en commun avec le peuple animal de connaître l'oppression depuis la nuit des temps. L'envie d'en découdre, elle en parle souvent dans ce récit, histoire de rompre une fois pour toutes avec le rapport brutal que nous entretenons aux vivants. Pour qu'enfin advienne une humanité nouvelle, en paix avec tout ce qui respire. Face à la violence, faut-il surenchérir pour étancher sa soif de vengeance ou au contraire éprouver la force du pardon? Louve en juillet répond à l'appel du sauvage, au gré des mots qui mordent et pensent, cris hurlés à la nuit ou chants intimes, ils disent chacun à leur façon l'espoir d'habiter la nature autrement et la possibilité aussi d'incarner toutes les bêtes en soi. Ce qui frappe à chaque fois dans l'œuvre de cette voix magnifique, c'est l'image puissante qui se dégage des mots venant du froid et qui réchauffe comme jamais. C'est un texte condensé d'une richesse folle qui pétille dans la bouche, dans nos yeux et éclaire tous nos sens. Un texte féminin qui court, mord et soigne comme une ode à la liberté, au sauvage et à la sororité. La teinte saumonnée des aubes de février pastel sous le signe de la Renaissance. De la fuite à l'enracinement, de la carapace à la vulnérabilité, de l'adolescence émotionnelle à une certaine maturité, voilà le cadeau de précieux de Sequoia à garder sans date limite de conservation. Venez gambader avec elle. Le monde sauvage, le renard roux, de Sylvain Beauduret, édition de La Gouttière. Une nouvelle collection des très engagées éditions de La Gouttière vient de voir le jour. Le monde sauvage, avec un premier opus sur le renard roux qui réenchante nos campagnes et nos forêts. Dans cette BD documentaire muette et pourtant si parlante, un jeune renard dont la mère a été capturée dès le début de l'histoire est suivi dans son élément naturel sans l'humaniser. Le texte est donc absent. Avec un dessin rond, coloré, expressif et un trait réaliste, la lecture est immersive au ras du sol. La mise en page efficace et dynamique redessine les contours d'une épopée haletante. Il court, le renardeau orphelin. Comment survivre quand on est petit? Sur qui s'appuyer et de qui doit-on se méfier? Comment trouver sa place dans un environnement nouveau et menaçant? Fragilité et naïveté face à la rudesse du monde. Le danger est partout, dans les airs, sur terre. Il n'y a guère que sous terre, où le répit semble possible, avec de drôles de voisins rayés de noir et de blanc. La moitié de l'album se déroule en forêt, avec des gros plans d'une expression folle, ses grands yeux terrifiés, cette menace au loin sur ses deux jambes. Au village, la concurrence fait rage près des poubelles, alors que les poulettes n'emmènent pas large. S'essayer au mulotage requiert de l'entraînement, alors forcément, la première fois, ça coince. En lice pour le prix Maya 2026, cet ouvrage, qui n'est pas sans rappeler l'univers de Bambi, est en format paysage, idéal pour diffuser ce permanent sentiment d'urgence, de mouvement et de fuite. La narration sans texte est parfaitement maîtrisée, dans un univers graphique aussi beau que mignon, où le monde sauvage se part de toutes les couleurs pour enchanter petits et grands. Une lecture riche en émotions qui éveille à cette urgence de sauvegarder le monde sauvage. Pour dénoncer l'impact désastreux de l'humain sur la nature, pas besoin de texte, le dossier pédagogique en fin d'album nous éclaire amplement. Imaginer, c'est bien, apprendre grâce à un naturaliste et un photographe animalier, c'est encore mieux. L'album allie une qualité narrative et graphique à un propos didactique dans un environnement pédagogique et ludique, pour voir au-delà des livres et des histoires. L'ambition ? Sensibiliser les jeunes pousses au respect de la nature, du vivant et des animaux, en abordant les thèmes de la chasse et de la biodiversité, et surtout débarrasser une fois pour toutes le renard de cette si mauvaise image qui lui colle à la fourrure. Goupil, ancien nuisible et nouvelle espèce susceptible d'occasionner des dégâts, a une utilité folle dans les campagnes et auprès des humains. Inutile de le chasser, il faut le protéger. C'est ce que nous apprend ce croquignolé album jeunesse qui questionne l'enfant et lui amène des réponses. L'auteur Sylvain Bauduré a sorti ses pinceaux pour 30 pages d'histoire fictionnelle et il s'est associé à Johan Thionnet, naturaliste et photographe animalier, pour illustrer le livret. « Vis ma vie de petit renard, amuse-toi avec moi, découvre-moi et surtout apprends à me connaître. » Voilà le message au petit lecteur en herbe. Un album qui donne envie de se rouler dans l'herbe, de marcher en forêt et de croiser la route de ce canidé de poche qui éblouit par sa grâce, suspendu dans les airs lors de la chasse ou roulé en boule entouré d'une queue immense. Mal aimé, maître renard à mauvaise presse, alors qu'il a un rôle essentiel dans les espaces ruraux. Il dissémine des graines de fruits par ses déjections, contribue à lutter contre la croissante maladie de Lyme et s'avère un équarisseur naturel incontournable. Il incarne pureté, douceur, voire un animal totem, guide spirituel bienveillant et universel dans les traces du petit prince. Mais son statut de nuisible lui colle encore beaucoup trop au poil, comme de la glu. Une expression populaire bretonne parle de « faire la petite école du renard » pour désigner l'école buissonnière, une façon unique d'emprunter les chemins de traverse et avec un peu de chance à travers les ronces, nous aurons la chance de croiser le regard ourlé d'interrogation de ce flamboyant animal.
C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi. Et quand je pense à toi, j'ai le cœur au mauvais endroit. Moi je fais pas confiance au premier venu. Je t'ai donné ta chance, mais t'as disparu. Je cherche encore des excuses pour te comprendre, pour que le mot ne soit pas l'écran. la nuit je revois dans mes songes le signe de croix. Personne ne peut prédire les joies, les chagrins. T'as préféré